Nzamba.
Nzambira samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Gatekakawe. C'est le moment de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité, la tranche des informations qui ont marqué la semaine qui vient de s'écouler. À la présentation, vous êtes avec Josephine Johnson-Nzimana. Madame, monsieur, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, effectue depuis ce dimanche une visite à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies. Une visite qu'il compte effectuer jusqu'au 26 septembre. Evariste Ndayishimiye est à la tête d'une délégation très réduite. Il se déplace sans son conseiller principal, ayant la coopération dans ses attributions, encore moins son conseiller principal chargé de la communication. Une situation inhabituelle à la présidence de la République du Burundi. Les détails avec Jean-Marie Ndabashinze.
Selon l'ordre de mission numéro 110/SG/080/2021 tombé dans notre rédaction, VIP 1 et VIP 2 se trouvent successivement à la première et deuxième place de la délégation, ce qui veut dire Evariste Ndayishimiye et Angélique Ndayishimiye d'après les connaisseurs du protocole au sommet de l'État. Une situation inhabituelle se lit tout de même sur cet ordre de mission où on ne trouve ni le conseiller principal ayant la coopération dans ses attributions, ni le conseiller technique qui suit quotidiennement les dossiers en rapport avec les Nations Unies, encore moins le conseiller principal chargé de la communication comme le faisaient les prédécesseurs d'Evariste Ndayishimiye. Seul Evelyne Butoyi, porte-parole de Ndayishimiye, figure sur cette délégation réduite au strict minimum. D'après nos sources à la présidente de la République, l'explication de ce changement est mitigée. Certains pensent qu'Evariste Ndayishimiye le ferait pour la bonne gestion. D'autres pensent qu'il n'a plus confiance à ses conseillers qu'il a jugés récemment d'être fainéants, mais une large opinion affirme par contre que les caisses de Donald Chazi seraient presque vides.
D'après des sources dignes de foi en provenance des États-Unis d'Amérique, aucune personne ne peut être autorisée à fouler le sol américain sans être vaccinée. Et si cela était le cas, le président Ndayishimiye et toute sa délégation seraient bel et bien déjà vaccinés. Ce déplacement du chef de l'État aux États-Unis prouverait que donc certains hauts dignitaires du Burundi se sont fait vacciner en cachette contre le Covid-19 pendant qu'ils s'opposent à la campagne de vaccination dans leur pays. C'est Maître Vital Nshimirimana, le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile qui le dit. Il demande aux différentes organisations de sensibiliser les autorités burundaises afin qu'elles permettent la vaccination de la population.
Et ceci contredit la propagande engagée par le gouvernement du Burundi qui prétend que le Covid n'existe pas au Burundi, d'une part, et d'autre part, que la vaccination n'est pas une affaire sérieuse, urgente et adaptée pour le Burundi. Nous nous étonnons que le gouvernement du Burundi continue à sacrifier les citoyens parce que cette position ou cette attitude des gouvernants désoriente la population et qui se retrouve en train de douter sur la nécessité et l'utilité et l'urgence de la vaccination, alors que les grands dignitaires, leurs familles ainsi que les collaborateurs sont entièrement vaccinés. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tous les différents groupes d'oppression, notamment les syndicats, les médecins, les confessions religieuses et les organisations de la société civile, et la population dans l'ensemble, se lèvent pour demander, pour exiger au gouvernement de mettre en place un programme de vaccination comme le font d'autres pays du monde. C'est ce qui permettra au Burundi de se protéger contre la pandémie, mais aussi d'être libre de mouvement et de se déplacer comme le font les autres. Aujourd'hui, dans plusieurs pays où le niveau de vaccination est vraiment très fort, on est à la phase où on recommence l'organisation des événements de grande envergure qui rassemblent beaucoup de gens sans toutefois être masqués.
La radio Nzamba, à travers la messagerie WhatsApp du chef de l'État, lui a demandé s'il s'est fait vacciner avant d'effectuer ce voyage. Il a répondu qu'il ne pouvait pas se faire vacciner parce qu'il n'y a pas encore de vaccination au Burundi.
Inzamba.
Dans le domaine des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme a continué à regresser au Burundi depuis l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. C'est ce qui ressort du rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Ce rapport note la persistance des violations de l'homme et le verrouillage de l'espace démocratique. Ce rapport a été présenté ce jeudi dans une conférence de presse virtuelle. Le point avec Blaise Nijimbele.
Ce rapport constitue le cinquième rapport présenté depuis la mise en place de cette commission d'enquête sur le Burundi. C'était au mois de septembre 2016. Le présent rapport s'est basé sur 1700 témoignages recueillis auprès des victimes, des témoins et d'autres sources. La commission a constaté que malgré les quelques promesses du président Évariste Ndayishimiye, le 18 juin 2020 pour améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi, rien ne vise en réalité à garantir le respect des libertés fondamentales comme les libertés d'expression, d'information et d'association. Doudou Diène, qui préside cette commission, dit que la situation des droits de l'homme reste préoccupante au Burundi. Il donne ici l'exemple de la persécution des opposants politiques, les assimilant aux membres des groupes rebelles.
Des violations graves des droits de l'homme ont continué à être commises et elles sont même accrues depuis juin 2021, principalement dans le cadre de la lutte contre les groupes armés responsables des multiples attaques aveugles ou ciblées perpétrés depuis l'été 2020. Violations en lien avec les incidents de sécurité. Ces violations ont visé des personnes soupçonnées d'être impliquées dans les attaques armées ou de collaborer avec des groupes rebelles, principalement des militaires de l'ancienne armée burundaise ex-FAB, des membres de partis d'opposition, notamment le CNL, et certains de leurs proches.
La commission dit avoir documenté également beaucoup de cas de disparition forcée, d'arrestations et de détentions arbitraires accompagnées de tortures sans nom. Pour les auteurs de ces crimes, elle pointe du doigt les agents des services de renseignement, les policiers et les jeunes Imbonerakure qui ont tous continué à agir dans l'impunité totale. La commission estime que ces crimes sont impunis parce que l'appareil judiciaire est instrumentalisé par le pouvoir exécutif.
Le système judiciaire a continué à être utilisé comme un outil de cette répression, notamment en s'abstenant de mener des enquêtes sur les incidents en question et en prolongeant les détentions arbitraires.
La commission trouve également que l'environnement démocratique n'est pas propice aujourd'hui, soulignant que les médias et la société civile ne travaillent pas encore dans la quiétude. Elle souligne aussi que les discours de haine des autorités du Burundi ont diminué et ont été remplacés par des propos traitant d'ennemis du Burundi, les opposants politiques. Signalons que le contenu de ce rapport sera présenté devant les membres du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme le 23 septembre de cette année.
Entre-temps, l'organisation Human Rights Watch demande la reconduction de la commission d'enquête sur les crimes commis au Burundi depuis 2015 pour continuer les enquêtes. John Fisher, représentant de Human Rights Watch au bureau de Genève, affirme qu'il y a toujours des cas de violation des droits de l'homme et que l'impunité s'observe toujours depuis l'investiture de Ndayishimiye. John Fisher demande qu'il y ait un plan d'action concret pour lutter contre l'impunité.
Ce qui est un peu préoccupant pour nous, c'est que l'Union européenne, qui traditionnellement a présenté la résolution sur le Burundi au Conseil de droits de l'homme, est en train de débattre un peu l'approche. Il y a quelques-uns qui pensent que la commission d'enquête n'est plus nécessaire. Il y a quelques-uns qui pensent qu'un rapporteur spécial, par exemple, un expert indépendant sur le pays devrait mettre en place. On n'a rien contre un rapporteur spécial, mais c'est clair qu'un seul individu n'aura pas la capacité documentée de surveiller tout ce qui passe dans le pays. Qu'il y a toujours un besoin d'avoir toute une commission d'enquête ou quelque chose de pareil, et aussi avoir un mandat pour avancer à la lutte contre l'impunité. C'est clair qu'avec un changement de président, il y avait quelques espoirs que ça mènerait à un changement d'approche, et ça reste toujours l'espoir. Nous aussi, nous aimerions bien avoir un processus où le gouvernement respecte plus les droits humains, où il y a un plan d'action très concret pour faire des réformes, des changements pour avancer la justice pour les victimes, etc. Mais en ce moment, tout ça manque de la discussion. Alors, sur le Conseil de droits de l'homme, si l'ONU va changer son approche, va être moins fort ou plus susceptible à entrer dans des discussions d'engagement, ça devrait en réponse à des vrais changements sur le terrain. Et c'est ça qui est nécessaire. Et en ce moment-ci, on verra comme les négociations à Genève continuent à dérouler. Mais en ce moment-ci, il nous semble que le gouvernement de Burundi juste nie totalement, juste refuse d'accepter qu'il y a même des choses à changer, qu'il y a même des abus ou des violations. Alors, on a besoin d'avoir un vrai engagement s'adresse à la justice, la lutte contre l'impunité, et pas juste des paroles non plus, plan d'action très concret.
Inzamba. La suite de cette édition, c'est un appel au président du parti au pouvoir CNDD-FDD, Marguerite Baragnitze, demande à Révérien Dikuriyo d'arrêter de s'approprier par force des biens privés. C'est en réaction aux activités de sa propre fondation Pax Burundi qui seront hébergées dans les locaux de la maison Shalom sans autorisation de son propriétaire. Marguerite Baragnitze, la représentante légale de la maison Shalom, appelle les confessions religieuses à décrier la tyrannie du parti au pouvoir CNDD-FDD. On fait le point avec Vanessa Mouitek.
Les locaux de la maison Shalom de Ruyigi vont désormais abriter l'académie de football Aigre Noir appartenant à la fondation Pax Burundi. Le président du CNDD-FDD, en même temps patron de cette fondation, a officiellement lancé ce mardi les travaux de cette académie.
Je voudrais remercier la province de Ruyigi qui nous a témoigné beaucoup d'amour. On vient de passer ici 2 ans et durant ces 2 ans, vraiment, on vous dit merci. Vous avez fait preuve d'entraide. Nous avons vu des aides provenant des communes. Nous en avons vu d'autres émanant des particuliers, chacun sur son compte. Nous restons reconnaissants. On a senti la fierté à la burundaise.
Cette activité a suscité de vives réactions du côté de la maison Shalom en exil. Marguerite Baragnitze, sa présidente, qualifie cette procédure de tyrannie du pouvoir CNDD-FDD.
Révérien Dikuriyo, je voudrais vous dire que la tyrannie du système CNDD-FDD un jour tombera. Un jour tombera et laissera la place à la nouvelle génération. La nouvelle génération qui voudra casser ce cycle de violence du Burundi. Et je voudrais lui dire que cette maison Shalom, ce ne sont pas ses briques, ce ne sont pas ses billets de la banque. Maison Shalom, c'est un message. J'ai voulu élever les enfants Hutu, Tutsi, Batwa et de toutes les provinces pour leur dire: vous êtes une nouvelle génération qui va casser ce cycle de violence. Vous venez de vouloir nous humilier, nous faire taire. On ne peut jamais arrêter l'amour.
La patronne de la maison Shalom lance un appel aux confessions religieuses pour intervenir et enseigner les valeurs d'amour et de respect de la personne humaine, contrairement aux enseignements du parti au pouvoir.
Je voudrais m'adresser à tous les dirigeants, à tous nos pasteurs, à tous nos évêques. C'est de refuser cette tyrannie. C'est de refuser qu'on nous humilie. C'est de refuser que nous courbions les chines, qu'on nous emprisonne, qu'on nous tue, qu'on nous viole. Cette tyrannie va cesser. Le mal n'aura jamais le dernier mot. C'est l'amour qui triomphe toujours.
Ces locaux appartenant à la maison Shalom de Ruyigi avaient été conçus pour intervenir dans le secteur communautaire et humanitaire. Il s'agissait entre autres d'un hôpital, des centres culturels pour enfants ainsi que d'autres maisons de passage.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le parti CNDD-FDD, à travers son secrétaire général, est en train d'appliquer le système d'expropriation des parcelles et des biens privés des gens, à l'instar de ce qu'il a été fait en 1972. La maison Shalom en est une des victimes aujourd'hui. C'est l'analyse d'Emmanuel Ndereimana, un ancien cadre du CNDD-FDD, aujourd'hui porte-parole de la coalition de l'opposition politique Sefor Arusha, qui milite pour la restauration de l'accord d'Arusha. Emmanuel Ndereimana est aussi une victime de la crise de 72 au Burundi. On l'écoute.
Les mêmes choses qui se sont passées sous le pouvoir de Micombero sont en train de se passer aujourd'hui et c'est très dommage. Mais tout ça, on a connu des signes avant-coureurs de la situation que nous traversons aujourd'hui, mais certaines personnes n'ont pas su déchiffrer ce que c'était réellement. C'est un projet du CNDD-FDD qui était là depuis qu'on est en train de voir la réalisation aujourd'hui. Donc, un vol qualifié aux vies et aussi de tout le monde. Donc, ils sont en train de faire le copier-coller de ce qui s'est passé en 72 sous le régime Michombero. C'est comme s'ils sont en train d'opérer une vengeance quelconque aux gens qui ne connaissent rien dans tout ça.
Voilà, c'est par là que nous bouclons la boucle de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Inzamba, Agathe Kakawe. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.
Ngiyi Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.